France.
Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour cette belle journée. Je suis un petit peu stressée parce que j'ai été précédée par des orateurs extrêmement brillants et donc moi j'ai pas forcément l'habitude de prendre la parole devant autant de personnes. Donc je vais essayer de faire au mieux. Alors comme il vous l'a dit, donc je suis formatrice depuis une dizaine d'années, donc j'ai été formée par le professeur Jean-Louis Terra au CHU de Lyon, le Vignatier. Donc c'est une formation que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt, à laquelle j'ai vraiment adhéré tout de suite. Et donc j'ai formé un binôme avec le docteur Claude Plassard, qui est médecin gériatre sur Châtillon-Montbard en Côte d'Or. Et donc depuis cette dizaine d'années, donc, on assure des formations à des équipes qui travaillent autour des personnes âgées, donc en moyenne 2 à 3 sessions de 2 jours sur les 4 départements de la Bourgogne. Ces sessions sont organisées par le Gérontopôle de Dijon. Alors, je voudrais déjà revenir un tout petit peu sur mon travail donc, au niveau de la cellule d'urgence médico-psychologique. Indirectement, je travaille donc, il y a des situations, des interventions qui sont liées au suicide, par exemple. On peut très bien intervenir dans une gendarmerie ou une police ou dans une famille qui vient de découvrir quelqu'un qui s'est suicidé. À ce moment-là, c'est à nous, comme cet événement est potentiellement traumatique, de venir soutenir les personnes qui ont été témoins ou qui ont découvert cette mort horrible. Donc on intervient dans ce cadre-là. On peut aussi être susceptible d'être appelé par les écoles, par exemple, quand il y a le suicide d'un jeune adolescent. Alors bien évidemment, il n'y a pas de risque psychotraumatique pour les collègues, pour les amis de cette personne, mais souvent on craint un risque de contamination entre adolescents et on intervient pour pouvoir mettre en place un groupe de parole pour permettre qu'il y ait des choses qui puissent être dites autour de ce qui vient de se passer. Donc indirectement, je suis confrontée justement à des situations après suicide. Alors, dans ces formations de formateurs, c'était vraiment très important parce qu'on nous a bien sûr donné aussi tout un matériel tout prêt qui nous a beaucoup aidé à mettre en place ces formations. Après, c'était le temps de se les approprier, de s'imbiber de cette formation pour pouvoir ensuite la reproduire autour des professionnels. Les professionnels qui sont formés, ce sont bien sûr des personnels d'EHPAD, de l'aide à domicile, des infirmières, des aides-soignantes, des aides à domicile, des directrices d'EHPAD, infirmières, coordinatrices, médecins. On a eu une fois la surprise d'avoir une coiffeuse qui travaillait en EHPAD, qui est venue à cette formation. Et c'était tout à fait intéressant, parce que comme vous le savez, souvent ces personnes qui sont en grande souffrance vont choisir les personnes avec qui ils ont un lien de confiance ou avec qui ils se sentent le plus proche. Alors ça peut être la dame qui fait le ménage, comme ça peut être la coiffeuse, et pas forcément le médecin, parce que le médecin, chez les personnes âgées, encore, c'est quelqu'un d'énormément respectable. Le docteur, on ne doit pas le déranger, il ne faut pas l'embêter avec nos états d'âme, donc on va se confier à la coiffeuse. Et donc c'était tout à fait intéressant, du coup, que des personnes comme ça, qui ne sont pas directement dans les soins, puissent avoir une sensibilisation à ce risque suicidaire. En général, ces formations sont très appréciées par les personnels formés. C'est des formations qui sont extrêmement pratiques, concrètes, c'est-à-dire qu'on leur donne un véritable outil. Ce n'est pas forcément des aspects théoriques qui seraient très compliqués à intégrer. C'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit s'y prendre, qu'est-ce qu'on doit repérer. Des choses extrêmement précises et simples. On fait des jeux de rôle aussi pour leur montrer un petit peu comment on peut conduire un entretien, comment on participe à ce repérage et à cette évaluation. On va commencer par quelques chiffres, bien sûr. Alors moi, j'ai les sources INSERM 2010, donc vous avez vu déjà depuis les interventions ce matin, on n'a pas toujours les mêmes chiffres, mais bon, globalement, ils ne sont pas si éloignés. Sur 2010, donc, il y a eu 10 400 suicides. 28% sont des plus de 65 ans, donc c'est quand même énorme. Et en plus, il est pensé, selon cette enquête, qu'il y aurait une sous-estimation de peut-être 12%. Alors la fréquence des suicides chez les hommes entre 75 et 84 ans est 4,5 fois plus élevée que la moyenne de la population est 7 fois plus élevée chez les hommes de 85 à 95 ans. Ce qui est essentiel aussi, c'est que le ratio tentative de suicide pour suicide abouti est de 4 pour 1 pour les personnes âgées, contre 200 pour 1 pour les jeunes, les moins de 25 ans. Donc on montre, passez-moi l'expression, l'efficacité de ces passages à l'acte chez les personnes âgées qui aboutissent pour beaucoup à la mort. Les moyens qui sont utilisés chez les personnes âgées, entre 65 et 84 ans, souvent chez les femmes, c'est les intoxications à 24%, contre 4%, 5% pour les hommes. Les pendaisons sont très fréquentes chez les hommes, presque 50%. Les femmes un peu moins, 32,5%. Les noyades, c'est plus les femmes, 17,3%. Les hommes, 5%. Les armes à feu, c'est les affaires des hommes aussi, ça, hein, presque 30%, contre 1,7% chez les femmes. Quand on passe au-delà de 85 ans, la pendaison va augmenter un petit peu chez les femmes et les intoxications vont apparaître un petit peu plus importantes chez les hommes et à l'opposé, les armes à feu diminuent. Les précipitations ou défenestrations sont aussi non négligeables chez les personnes âgées. Il y a donc une surmortalité suicidaire. On considère qu'à peu près une tentative pour un décès chez l'homme, deux tentatives pour un décès chez la femme. D'où bien évidemment l'importance de repérer les risques suicidaires des personnes âgées, qui sont pour une grande majorité liés à la dépression, hein, ce qu'on vous a évoqué ce matin, d'où bien évidemment l'importance de détecter la dépression. Quels sont les facteurs de risque de dépression ? Les femmes sont plus touchées que les hommes, deux femmes pour un homme. En général, comme ça, c'est les études qui montrent que plutôt les personnes qui auront un niveau socio-culturel bas. L'entrée en institution, on vous l'a déjà dit ce matin, l'entrée en institution est un grand danger, est un facteur de risque très important. Le deuil, l'isolement, la solitude, les problèmes de voisinage, la retraite, problèmes financiers, changement de lieu de vie, la perte d'autonomie, le handicap, vous voyez combien ces facteurs de risque chez les personnes âgées. En plus, on vieillit, en plus, on a de risques, malheureusement, de perdre des proches, de perdre des enfants, de perdre des membres de sa famille, des amis. En plus, donc, du coup, deuil, multiple deuil, dit risque de suicide. Il y a eu, à un moment donné, ça se fait encore aussi, hein, ce changement de lieu de vie. Il y a des personnes âgées qui ont choisi de faire leur retraite, de passer leur retraite dans le Midi ou maintenant dans des pays du Maroc ou l'Espagne. Et ce n'est pas forcément si simple que ça. Hein. Bien sûr, on a le soleil, on a peut-être une qualité de vie un petit peu meilleure, mais par contre, on ne se fait plus vraiment des amis à 80 ans comme on s'en fait à 15 ans. Hein. Et donc, recréer des liens sociaux, des amis, c'est un peu plus compliqué. Hein. Bien évidemment, avec l'âge, on va souvent quand même vers la perte d'autonomie, le handicap. Ce qui est quelque chose d'important aussi, c'est souvent que les conjoints vont avoir à prendre en charge l'autre personne, son autre conjoint, qui peut être dans la démence ou qui peut être dans des pathologies chroniques. C'est toute la difficulté des aidants et il n'est pas rare que ce soit l'aidant qui va se suicider, disparaître, alors que la personne en démente va continuer sa vie. Parce que à un moment donné, bon, déjà c'est une vraie souffrance de voir la personne avec qui on a partagé la vie voilà, se détériorer, avoir de plus en plus de difficultés à communiquer, à avoir des troubles du comportement, de l'agressivité parfois, etc. Et donc, en plus, elle demande une présence en permanence qui est effectivement extrêmement difficile. On va voir aussi comme facteur de risque de dépression, bien sûr, les antécédents personnels de dépression ou de pathologie psychiatrique. Il y a aussi tout ce qui est somatique qui risque d'entraîner de la dépression, des maladies chroniques, hein, comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, le Parkinson. On sait, par exemple, que les personnes qui ont un accident vasculaire cérébral, à peu près 50% d'entre elles vont développer de la dépression. C'est pas rien quand même de traîner, entre guillemets, la moitié de son corps, hein, et puis de continuer à vivre avec de grandes difficultés. L'apparition de troubles chroniques aussi, cognitifs, vont entraîner aussi des possibles dépressions. Il y a toutes les pathologies de la thyroïde, les situations de dénutrition, on sait combien ça peut être fréquent chez les personnes âgées. L'existence aussi de troubles sensoriels, hein, par exemple la diminution de l'audition, de la vision, qui vont obliger les personnes âgées, par exemple, à ne plus se rendre au club du troisième âge. Elles n'entendent plus bien, elles ne comprennent plus bien, elles ne peuvent plus se déplacer toutes seules, et donc elles vont se renfermer sur elles, ne plus sortir de chez elles, et puis se retrouver dans une solitude qui va encore s'aggraver. Certains médicaments aussi, bien évidemment, peuvent avoir des risques de dépression associés. Alors, les tableaux cliniques de la dépression. Alors là, je vais vous montrer brièvement le tableau clinique habituel, c'est-à-dire celui qu'on voit chez les adultes, mais qu'on ne voit quasi pas chez les personnes âgées. Hein, je vous en dirai quelques mots après. Ce tableau clinique de la dépression, c'est bien sûr une douleur morale intense. Le présent est vécu comme insupportable. Il y a une nostalgie du passé, des ruminations, des remords, une perte de l'estime de soi, autodépréciation, avec des plaintes somatiques qui sont multiples. Hein. Ces troubles du sommeil, alors on sera attentif à repérer quels troubles du sommeil présentent ces personnes. C'est souvent le signe de la dépression, c'est des réveils matinaux, angoissés, avec l'impossibilité de se rendormir. Hein. Perte d'appétit, avec amaigrissement et une asthénie intense. Hein. Les personnes qui ont une sorte de chape de plomb sur les épaules, qui leur empêche cette fatigue de pouvoir s'habiller, se lever, se faire les tâches quotidiennes. Et puis va s'adjoindre à ce tableau des idées noires, hein, bon, avec risque suicidaire, on parlera d'idées pessimistes, idéations suicidaires, bien sûr. Chez les plus de 65 ans, la prévalence des symptômes dépressifs se situe entre 10 et 25%, donc vous voyez, c'est énorme, avec une prévalence de dépression sévère à 5%. La survenue d'un épisode dépressif dans la première année d'entrée en institution est de 10 à 15%. Donc c'est vraiment une période de tous les dangers. Hein, donc les professionnels d'EHPAD ou de maisons de retraite doivent être extrêmement attentifs à cette première année. D'où l'importance aussi de repérer les facteurs de risque à l'entrée, à l'admission de cette personne, pour pouvoir déjà repérer quelles sont ses fragilités, quelles sont les difficultés, s'ils ont eu des événements de vie, s'il y a eu des décès, enfin, évaluer la présence de tous ces facteurs de risque qui vont être un peu comme des clignotants. Mais en même temps, il faut relever quelles sont les forces, sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour soutenir ces personnes, pour les motiver, pour les stimuler, pour les encourager, pour s'étayer, pour pouvoir les soutenir et être attentif à eux. Chez la personne âgée, la dépression est souvent très compliquée à diagnostiquer, donc évidemment pas toujours repérée, et si elle n'est pas repérée, elle n'est pas traitée. Parfois elle va être repérée, hein, cette dépression, mais elle va être négligée. Négligée, pourquoi ? Parce que les personnes âgées sont polypathologiques, ils ont souvent des traitements médicamenteux multiples qui vont faire hésiter les médecins à prescrire en plus un traitement contre la dépression. Il y a déjà tellement de médicaments, est-ce que ça va aller avec les autres, est-ce que, bon, voilà. Et donc du coup, on évite de prescrire ces antidépresseurs. Quelque part, il y a encore un peu des idées comme quoi, quand on est vieux, voilà, on est forcément malheureux. Puis voilà, c'est un peu comme si c'était une certitude. Et voilà. Mais les personnes âgées peuvent être déprimées, elles peuvent être traitées et aller mieux. La forme classique de dépression qu'on observe chez les adultes, on ne la voit pratiquement pas chez les personnes âgées. Chez la personne âgée, la dépression prend très souvent des formes particulières ou dépression masquée. Je vais vous décrire quelques tableaux. Par exemple, ça va être une présentation somatique. Les personnes décrivent qu'elles vont mal, qu'elles sont très fatiguées, qu'elles sont en mauvais état général. Voilà, on s'oriente vers quelque chose de somatique et ça peut masquer une dépression. Il y a des présentations hypochondriaques avec des multiples plaintes somatiques, des investigations biologiques, des examens multiples, des explorations qui souvent ne ramèneront pas grand-chose, hein, avec des revendications, des patients qui vont d'un médecin à l'autre, etc. Il peut y avoir des présentations anxieuses, c'est fréquent, avec une inquiétude permanente, des crises anxieuses répétées, une agitation, une inhibition et beaucoup de dépendance vis-à-vis des autres. Parfois, ça peut aller jusqu'à une présentation délirante et vous avez tous à l'esprit, je pense, des personnes âgées qui sont dans des délires interprétatifs de préjudice. Voilà, à moi, on n'a pas servi la même chose sur mon plateau que sur la voisine, que chez la voisine. Pourquoi on me parle comme ça et pas de la même manière à la voisine, à des sentiments comme ça de jalousie, hein, de préjudice. Il y a aussi des idées d'incurabilité, qu'on ne pourra jamais aller mieux, qu'on est ruiné, hein, qu'on nous a pris des choses. On m'a volé mes lunettes, on m'a volé mon argent, etc. Des attitudes revendicatives, procédurières. Hein. On voit toutes ces personnes âgées qui vont aller de procédure judiciaire en procédure judiciaire, en courrier à la mairie pour se plaindre des voisins, etc. Des altérations des liens sociaux. Hein. Et donc, cette présentation délirante, bien sûr, il faut toujours penser à avoir à l'esprit qu'il peut y avoir une dépression. Ce n'est pas forcément, il peut y avoir aussi des personnes âgées qui sont dans la psychose, hein, bien sûr, mais il faut quand même penser à ça, d'autant qu'il n'y a pas d'antécédent psychiatrique chez la personne. Il y a des présentations agressives, hein, avec une labilité de l'humeur, une grande irritabilité, susceptible, hostile, des troubles caractériels, avec parfois un alcoolisme. Hein. Des présentations confusionnelles, hein, ça peut se voir aussi, angoisse, désorientation, incohérence du discours, trouble d'attention, omnubilation. Je suis repartie. Il peut y avoir bien sûr aussi une présentation, ce qu'on appelle avec repli, hein, donc une véritable régression. La dépendance est alors massive, avec une apathie très importante. Les personnes, voilà, on les met dans un fauteuil le matin dans un coin, on va les retrouver à midi dans la même position. Hein. Des présentations démentielles avec des orientations, troubles amnésiques, troubles du comportement, de concentration. On va noter aussi des dépressions secondaires, hein, donc ça, je vais aller assez vite, hein, c'est dans le cadre d'une pathologie organique grave, hein, donc dans certaines pathologies, ça peut entraîner une humeur dépressive. Hein. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure, donc cancer, diabète, etc., insuffisance cardiaque, le syndrome d'apnée du sommeil, hein, donc le fait de n'avoir jamais des nuits correctes, de se lever extrêmement fatigué, peut emmener en tout cas une dépression. Les dépressions vasculaires, j'en ai parlé, le Parkinson. Attention aux intoxications alcooliques, le plus souvent niées. Par exemple, moi je me souviens à un moment donné, quand je travaillais aux urgences, il y avait un bilan qui était fait systématiquement pour les personnes âgées qui venaient, pour les personnes qui venaient pour faire un malaise. Et le nombre de résultats d'examens biologiques qui démontraient qu'il y avait une présence d'alcool chez des petites personnes âgées, des femmes, qu'on n'aurait absolument pas pu penser qu'il y avait un problème d'alcool. Et vous savez, le porto qu'on partage avec l'aide ménagère, hein, voilà. Et donc, il faut être attentif aussi à ça. Alors, dépression, démence, hein, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, hein, bien sûr. Hein. Simplement, c'est quelque chose qui est très compliqué. Hein. Il va falloir faire la part des choses, à savoir que la dépression peut être en lien avec une démence. Hein. Et puis, ça peut être les premiers signes d'une démence. Et puis, quand on a une démence, il peut se surajouter une dépression. Hein. Donc, ce qui fera la part des choses, bien sûr, c'est un bilan de tests psychométriques, un traitement d'épreuve, donc pour faire un petit peu la part des choses. On trouvera aussi quelques tableaux de mélancolie qui est plus fréquent chez la femme, avec une dépression majeure, surtout des idées délirantes de culpabilité, d'incurabilité, une conscience qui est complètement envahie par l'idée de mort, hein, les personnes ne pensent qu'à ça, et bien évidemment le risque suicidaire est absolument majeur dans les mélancolies. Ainsi, qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est qu'il faut repérer la dépression et évaluer le risque suicidaire. les personnes âgées ne présentent pas cette impulsivité qu'on observe chez les adolescents, surtout les garçons, qui parfois se traduit chez ces adolescents garçons par des passages à l'acte suicidaire qui sont sous le coup de l'impulsivité, parfois imprévisibles. Chez les personnes âgées, les passages à l'acte suicidaire vont survenir au décours de la crise suicidaire, cette crise suicidaire qui peut durer de 6 à 8 semaines en moyenne. Ça veut dire qu'on peut avoir du temps pour pouvoir agir et leur venir en aide. Si cette crise suicidaire est repérée et prise en compte, ça va entraîner une prise en charge médicamenteuse, psychothérapeutique de la dépression, et il est ainsi possible de faire baisser la mortalité par suicide chez ces personnes âgées. Alors, j'ai repris ce modèle, on va juste le faire passer. Voilà ce que vous a présenté le professeur Terras ce matin, donc le modèle de la crise suicidaire. Donc voilà, je fais que passer et je continue. Alors donc c'est ce modèle, donc c'est cet outil, le RUD, donc qui permet d'évaluer le risque suicidaire, les facteurs de risque, l'urgence, et puis la dangerosité du scénario avec la létalité du moyen que les personnes pensent utiliser. D'où l'importance de poser les questions. Et donc le docteur Claude Plassard, qui travaille avec moi, dit toujours, vous savez, il faut poser la question. Par exemple, si je vous demande l'heure, ben vous allez répondre à ma question. Mais si je ne vous demande pas l'heure, vous n'allez pas répondre. Donc c'est à nous à poser les questions précises. Est-ce que, parfois, quand on est tellement malheureux, on souffre tellement, on peut penser au suicide, est-ce que ça vous arrive ? Voilà, il faut poser ces questions extrêmement précises. Et puis les personnes, non seulement ne sont pas choqués par ces questions précises, mais au contraire, pour ceux qui ont ces idées suicidaires, il va y avoir un véritable soulagement, souvent dans les larmes. Enfin, quelqu'un a compris que je souffrais et que je pouvais penser à mettre fin à mes jours. Ceux qui n'ont pas d'idées suicidaires, ça ne va pas les choquer non plus. Ils vont dire, ben non, je ne vais pas bien, je suis bien triste, c'est bien compliqué ma vie en ce moment, mais j'ai mes enfants, mais j'ai ma conjointe qui est là à mes côtés mais qui me soutient, et ça ne va pas les surprendre. Donc, il faut poser les bonnes questions, il faut aller au fond des choses, c'est-à-dire, bon, est-ce que vous pensez au suicide ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà pensé comment vous alliez vous y prendre pour évaluer ce scénario ? Et est-ce que vous avez déjà l'idée du jour où vous allez faire ce passage à l'acte ? Ça veut dire que avec toutes ces précisions, on va pouvoir situer le sujet dans la crise suicidaire. Est-ce qu'il est au début de l'entonnoir ? Est-ce qu'il a encore des solutions ? Est-ce qu'il a simplement quelques flashs d'idées suicidaires ? Ou est-ce qu'on en est au moment où la personne ne pense qu'à ça, n'a plus de solution, et qu'elle est dans ses ruminations, le scénario tout près ? En fonction de l'endroit où la personne va se trouver dans cet entonnoir, bien sûr, notre prise en charge va être différente. On sera de plus en plus actif, directif, dans notre prise en charge, en fonction de là où il est. Si la personne, le scénario est prêt, il pense à une date anniversaire qui est dans 2 jours, bien sûr, on va pas redonner un rendez-vous à cette personne dans une semaine. Je caricature là, mais à ce moment-là, il va falloir, est-ce qu'il faut hospitaliser tout de suite, même contre le consentement de cette personne ? Voilà, si la personne a encore des solutions, a simplement quelques flashs, on va mettre en place un traitement, les psychiatres vont mettre en place un traitement, et puis cette prise en charge psychologique va pouvoir se mettre en place avec des rendez-vous réguliers, etc., très rapprochés, pour pouvoir soutenir cette personne, pour lui permettre de repousser l'échéance de ce passage à l'acte et de mettre en place des choses, d'apaiser l'état dépressif et de pouvoir être là à leur côté. Pour nous, les formateurs, qu'est-ce qu'il convient de faire ? Bien sûr, c'est de continuer. Continuer ces formations pour le repérage et la gestion du risque suicidaire, c'est former les professionnels, c'est former les médecins généralistes à l'évaluation du risque suicidaire. Certains le sont, d'autres moins. Il faut savoir que 80% des personnes âgées ont une consultation dans les 15 jours qui précèdent le passage à l'acte, consultation auprès de leur médecin. Alors, bien évidemment, ils ne vont pas venir voir leur médecin en disant « je pense au suicide ». ça va être des plaintes somatiques ou des douleurs ou je ne dors pas ou voilà, ça va être des plaintes comme ça auxquelles le médecin doit peut-être être attentif, prêter l'oreille et en même temps peut-être décoder un petit peu, hein, surtout si c'est des plaintes somatiques qui sont inhabituelles, par exemple. Donc former aussi les médecins généralistes au repérage des tableaux complexes de la dépression. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.